à voix nue, Emmanuel Loyer, je m'entretiens avec
Monique Lévi-Strauss.
Aujourd'hui, notre quatrième épisode, le cru et le cuit de la vie de couple. En 1951, vous entamez une vie de couple avec Claude Lévi-Strauss. Vous vous mariez en 1954 et vous ne vous quitterez quasiment plus. Une cohabitation heureuse, ancienne manière ou une sagesse, qu'est-ce qu'un couple ? Il faudrait en faire une anthropologie, la réciprocité, un mélange de familiarité et d'étonnement dans le quotidien, la réassurance mutuelle. Un bricolage particulier dans la variété des rapports possibles entre les hommes et les femmes dans les différentes sociétés, peut-être un lieu d'alliance et de la reproduction assorti de quelques sentiments qui donnent sens à cet arrangement humain. On va donc discuter aujourd'hui avec vous, Monique, de la vie de couple. Alors, vous avez été avec Claude, tout d'abord, peut-être on peut commencer par là, un couple de travail. On a l'impression que vous jouez auprès de lui un peu un rôle de bonne fée, parce que finalement, à partir du moment où vous vivez ensemble, il y a quelques années difficiles, mais ensuite, une sorte d'alignement des planètes, j'appelle ça comme ça, Triste Tropique en 1955, qui sera un succès, et puis, plus tard, l'élection au Collège de France en 1959-60, et sa production, une forme de reconnaissance très grande. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez accompagné tout ça ? Est-ce que vous avez vraiment été une bonne fée ?
Eh bien, il ne faut pas trop me vanter, mais je peux dire que j'ai tout de même joué un rôle positif simplement en laissant Claude parler. Parce qu'il avait de très gros soucis et tous les échecs qu'il avait subis, notamment en n'étant pas nommé directeur du Musée de l'Homme, comme le lui avait promis Rivet.
Qui était directeur du Musée de l'Homme.
Il était déçu et il voyait mal son avenir se dessiner. Il avait eu aussi un échec, même deux échecs, je crois, au Collège de France. Il était déprimé. Et la seule chose que j'ai faite pour lui, c'est quand il avait envie de parler, alors qu'il n'était pas bavard, eh bien, je le laissais parler et puis je lui disais simplement « Il faut avoir de la patience, tout n'est pas perdu. » Et je crois que ça l'a déjà beaucoup aidé d'avoir quelqu'un qui veuille bien l'écouter. D'ailleurs, je pense que dans une vie, c'est un grand service qu'on peut rendre aux autres simplement de les écouter. Beaucoup de personnes ont besoin de se décharger. Et ça ne sert à rien de leur opposer des discours. Ce qu'ils demandent, c'est pouvoir parler à haute voix, simplement pour devenir conscient, beaucoup plus conscient de ce qui leur arrive. Parce que quand ils parlent à haute voix, ils s'entendent eux-mêmes et ils mesurent ce qui est déraisonnable dans leur détresse, disons. Donc, tout devient plus juste quand il parle à haute voix avec un auditeur. Donc le premier rôle que j'ai joué auprès de Claude, c'est les quelques fois où il avait envie de parler, de le laisser parler.
Première fonction, vous écoutez Claude. Deuxième fonction, vous avez été aussi une compagne de travail. Vous dites parfois que vous avez été sa première lectrice. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, à partir de Triste Tropique, vous fonctionnez dans le travail.
Bien avant Triste Tropique, déjà au Musée de l'Homme, tout ce qu'il écrivait, les articles qu'il écrivait, au Musée de l'Homme, bien avant que nous vivions ensemble, Claude me passait tout, il avait une secrétaire au Musée de l'Homme, mais tout ce qui était bien tapé, il me le passait pour que je le relise. Et il avait vu que, enfin, j'étais assez sévère dans mes lectures. Comme j'avais fait beaucoup de traductions, je regardais à chaque accent pour que l'orthographe soit correcte, pour que les dates soient correctes. Je vérifiais toujours les dates, je vérifiais toujours l'orthographe des noms propres. Enfin, il savait que j'étais assez tatillon et ça lui plaisait. parce que je relevais des détails que lui n'avait vraiment pas vus. Donc, dès le début, dès le musée de l'homme, tout ce qu'il écrivait, même les lettres qu'il écrivait à la main, il me les passait, il me disait, si ça ne vous ennuie pas, relisez cette lettre. Et puis, de temps à autre, je lui disais, oh, mais ça serait plus gentil quand vous écrivez un tel et que vous parlez de tel livre, qu'en bas de page, vous donniez la référence exacte, comme ça, votre correspondant n'aura pas à chercher. Ah, il me disait, vous avez raison. Voilà le genre de correction que je faisais. Enfin, un peu maîtresse d'école, si vous voulez, mais ça lui plaisait beaucoup parce qu'il se disait, au moins, je ne fais pas de faute d'inattention. Et Claude avait peur des fautes de distraction, disons. Donc, tous les articles, il me les donnait à lire. Ça, c'était bien organisé entre nous. J'ai donc été sa première lectrice dès notre première collaboration.
Et alors, pour Triste Tropique, racontez-nous, parce qu'il commence en 1954 et il écrit ce gros livre en quelques mois, d'une façon très, très rapide.
Oui, alors là, je vais vous dire, Triste Tropique, c'est le premier livre qu'il a écrit sur commande. Tous ses autres écrits, comme aussi les articles qu'il écrivait pour les temps modernes, tout ce qu'il écrivait, c'était de sa volonté, et ensuite il les proposait à un éditeur ou à un directeur de revue, et c'était accepté ou pas. Triste Tropique, ça a été le premier manuscrit qu'on lui a demandé sur commande.
Oui, Jean Mallory.
C'est Jean Mallory. Mallory avait écrit le premier livre de cette collection Terre humaine et sur le conseil de Pierre Gourou, le célèbre géographe belge. Ah oui, il était célèbre. Il était professeur au Collège de France. Sur le conseil de Pierre Gourou, Jean Mallory a demandé à Claude d'écrire un livre sur ses expéditions en Amazonie. Et pour Claude, c'était le premier livre qu'il allait écrire sur commande. C'est-à-dire qu'il savait que le manuscrit serait accepté. Et je dois dire que pour un auteur, ça fait une grande différence de savoir, pendant qu'on écrit, qu'on est sûr qu'on sera publié. En général, on écrit et puis on se demande quel sera l'éditeur qui marchera. Tandis que là, c'était une commande. Mais l'ennui avec une commande, c'est qu'on fixe des dates. Et donc, il faut écrire beaucoup plus vite. Et Claude avait plusieurs postes, notamment à l'UNESCO, à l'École des hautes études. Donc, il occupait plusieurs fonctions, il avait beaucoup de travail, et puis on lui demande d'écrire un livre sur l'Amazonie en 4 mois et demi. Alors, ça voulait dire mettre les bouchées doubles.
Et c'est là où vous intervenez.
C'est-à-dire que...
Vous lui tapiez le texte à la machine ou pas?
Non, Claude écrivait toujours lui-même à la machine. Mais moi, je corrigeais au fur et à mesure qu'il écrivait. Il me donnait toujours 30 pages à la fois à relire et à corriger. Et ensuite, il reprenait le tout. Et pour Triste Tropique, c'est moi qui ai tapé à la machine le propre. Mais ça permettait à Claude de travailler beaucoup plus vite, de savoir qu'au fur et à mesure, je commentais par écrit son manuscrit. Et il savait qu'il pouvait compter sur moi pour noter les passages qui étaient à revoir.
Et par la suite, vous avez toujours lu tout de suite ces manuscrits.
C'était toujours comme
ça. C'était l'idée aussi, vous m'aviez un jour dit qu'il voulait une sorte de lecteur mainstream, vous m'avez dit. pas un anthropologue.
Il fallait
que ce soit compréhensible aussi par un.
Oui, je représentais le bon lecteur cultivé, mais pas l'anthropologue.
Voilà.
Donc, il savait que là où je ne comprendrais pas, il fallait absolument qu'il réécrive pour que le bon lecteur puisse comprendre. Et tous mes commentaires étaient par écrit. Je lui donnais mes commentaires négatifs, disons. Mon enthousiasme, je ne l'ai jamais écrit. Je lui disais, je riais, je disais, c'est formidable, tel passage, j'ai adoré. Mais ça, j'ai jamais écrit. Tandis que mes commentaires qui le conduisaient à revoir un passage, ça, c'était par écrit. Et je lui disais pourquoi je ne comprenais pas.
Et Triste Tropique, vous étiez enthousiaste en lisant comme ça
J'ai adoré.
Parce que lui, il n'était pas très sûr du résultat. Il n'était jamais très optimiste sur
Il n'était pas optimiste, mais il m'entendait avoir le fou rire. Je disais, c'est merveilleux, tu ne peux pas savoir ce que c'est bien. Mais je n'écrivais rien. Je n'ai jamais écrit mon enthousiasme.
Alors Monique, vous étiez un couple aussi particulier au sens où, enfin à l'époque c'était sans doute plus banal, mais vous étiez quand même beaucoup plus jeune que lui, vous aviez 15-16 ans de moins que lui je crois,
ouais. 16 ans, enfin, je sais plus. J'avais disons 16 ans trois quarts de moins.
Ça devait faire un peu jaser non autour
Ça faisait jaser, mais si vous voulez, les gens, ils n'attendaient pas la différence d'âge pour jaser, ils jasaient de toute façon. Je veux dire, les gens sont plutôt méchants.
Mais vous étiez une figure de jeunesse ou au contraire, vous étiez finalement... On vous donnait plutôt l'impression d'avoir été plutôt une figure presque un peu d'aînée, de mère pratiquement pour lui, parfois en l'aidant à tout
bien
un
sûr,
tas de trucs.
Bien sûr, et il comptait complètement sur moi. Donc, en réalité... il avait très très confiance en moi et il avait surtout confiance dans ma sévérité. C'est ça qu'il aimait. Si vous voulez, les accents, il fallait qu'ils soient parfaits. Si c'était aigu, c'était pas grave. et tout était comme ça.
Même donc, dans la vie quotidienne.
Oui, il savait que je ne laissais rien passer et ça lui faisait très très plaisir. Que je ne laisse rien passer. D'ailleurs, chez Plomb, quand il remettait un manuscrit, ceux qui recevaient le manuscrit chez Plomb disaient toujours à Claude, si tous les auteurs nous remettaient des manuscrits dans l'état où vous nous remettez le manuscrit, eh ben, ça serait une vraie vie dorée qu'on mènerait ici.
Bon. Donc vous étiez, on a compris, une lectrice sévère, peut-être une femme sévère. En tout cas, vous lui avez fait à manger, parce que je voudrais qu'on parle de la cuisine.
Oui.
Bah, la cuisine, on sait que c'est très important, évidemment, très essentiel même pour lui et pour vous. Pour lui, c'était quand même, c'est quelqu'un qui a écrit Les origines des manières de table et avant ça, Le cru et le cuit, une des hautes activités humaines. Et je sais que réussir un plat, c'était pour lui aussi important que ça nécessitait, disons, c'était une activité intellectuelle aussi
oui, oui.
digne que faire un exposé de philosophie.
Oui.
Et bon, alors avec tout ça, vous l'avez quand même nourri midi et soir pendant 60 ans.
Oui. Et bon, alors, j'ai eu une chance énorme parce que dès le début, bien sûr, j'avais une femme de ménage qui venait le matin, et j'ai eu la chance, dans les premières années de ma vie avec Claude, d'avoir une femme de ménage qui était une ancienne cuisinière. Or, ça, c'est un luxe énorme d'avoir une femme de ménage qui est une ancienne cuisinière, parce qu'elle nous faisait des plats merveilleux.
Mais vous, vous êtes un cordon bleu aussi.
Ah oui, mais je ne le suis pas de naissance. Hein.
Ah.
Non, j'ai
c'est
appris.
C'est bien, il y a de l'espoir.
Alors, j'ai appris, notamment, avec cette cuisinière qui me servait et qui avait un très grand respect pour Claude, parce que son mari était fonctionnaire et son mari fonctionnaire savait qu'un professeur au Collège de France, ça n'est pas rien. Et il lui avait dit, professeur au Collège de France, c'est une grosse pointure. Donc, elle respectait énormément le travail de Claude et elle faisait de son mieux. Alors, je dois dire, c'est d'abord une femme de ménage, excellente cuisinière, elle nous faisait des repas fantastiques. Et il fallait qu'ils soient bon marché, en plus, parce qu'on n'avait pas d'argent. Alors, elle avait mis le boucher au courant, et le boucher lui réservait les très bons morceaux, enfin, d'animaux qu'on mange moins souvent.
Et comment était-il à table ?
Claude ? Eh bien, il ne parlait pas jusqu'au fromage, il mangeait. Parce qu'il avait vraiment, comme il était hypoglycémique, c'était des moments...
Donc c'était silence jusqu'au fromage.
Silence jusqu'au fromage, parce que on faisait le plein à ce moment-là, dont il avait vraiment besoin.
Il avait besoin... Il était gourmet ?
Enfin, je...
Gourmand ? Glouton ?
Non, il était curieux, je dirais. Il était... il était très curieux des saveurs. Et plus je lui servais quelque chose de rarissime, plus il trouvait ça formidable.
D'ailleurs,
je lui aurais servi des queues de souris frites, il aurait trouvé ça extraordinaire, vous voyez. Je ne l'ai pas fait, mais et si ça avait été bon, vous voyez.
Oui, il avait mangé des choses bizarres aussi en Amazonie. Il comprenait aussi l'anthropologie par les papilles, clairement.
Ah, bien évidemment. Sûr. Et puis, il ne mangeait pas beaucoup, ce n'était pas un gros mangeur, oui. Mais ça l'intéressait énormément, et aussi les façons de cuire, tout ça, ça l'intéressait.
Et après le Japon, il a aussi... Enfin, au Japon, plus tard, beaucoup plus tard, dans les années 80... Il a découvert, vous aussi, des manières de cuire le riz, des plats qui l'ont beaucoup égayé, je crois.
Ah ben, bien sûr. Enfin, tous les voyages, d'ailleurs, qu'on a faits ont été des explorations culinaires, il n'y a pas de doute.
C'est vrai. Oui, toujours commencer par le marché.
Oui.
Parce qu'il n'allait jamais au restaurant. Tous les midis, il se pointait à la maison.
Il n'avait pas d'argent.
Non, mais après, il avait de l'argent, c'était pas plus tard.
Longtemps après.
Oui, hein. Plus tard.
Enfin, longtemps après que ma réputation soit absolument établie, vous voyez. Non, mais au début...
C'est un moyen de pression, vous m'avez dit plusieurs fois qu'au moment, beaucoup plus tard, de légender les photos, il ne voulait pas le faire et vous lui avez dit...
Pas de légende, pas de dîner.
Voilà, bon, comme ça, c'est clair.
Oui, oui.
La sévérité.
Non, mais à l'époque, si vous voulez, non seulement on n'avait pas d'argent pour aller au restaurant, mais c'était tout de suite après la guerre, et Claude avait été très, très bien reçu aux États-Unis. Donc, il y avait tous ces Américains qui venaient et qu'il fallait recevoir. On ne pouvait pas les emmener au restaurant, on n'avait absolument pas l'argent pour ça. Donc, il fallait faire des très bons repas pour les Américains. Alors là...
Et pour pas cher.
Oui.
Ce qui est étonnant chez vous deux, c'est qu'on sent, vous avez dit lors du dernier épisode, sa déclaration d'amour minimaliste, et qu'il n'y a pas du tout de romantisme. Il n'y a pas de romantisme de l'amour. Denis de Rougemont, qui était d'ailleurs quelqu'un que connaissait Claude Lévi-Strauss à oui. New York, a écrit un livre sur les différentes conceptions de l'amour en Occident, de l'amour courtois, on va dire, oui. À l'amour romantique. Et chez vous deux, il y a une espèce de anti-romantisme de l'amour assumé. Comme si c'était pas ça, l'amour, la vie de couple, c'était pas la passion, etc. C'était plutôt des obligations réciproques. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?
Il faut savoir que dans une vie de couple, qui peut durer très longtemps, eh bien... Le couple n'est pas du tout le même d'année en année. Le couple change et l'attirance de l'un envers l'autre existe toujours, mais ce n'est pas la même attirance. Le lien du mariage est un lien de collaboration extrêmement important. L'un compte sur l'autre. Tous les deux travaillent et chacun compte sur l'autre. Et ce n'est pas du tout la même attirance qu'au début. Et puis 10 ans plus tard, ça peut être encore autre chose. Ils sont en train d'élever des enfants et tous les deux élèvent les enfants ensemble. Et ils se rejoignent dans leur méthode d'éducation. Et donc, ça peut être encore un autre moyen de vivre ensemble et de s'aimer. Et il y a beaucoup de moyens de se retrouver, de s'aimer, de faire couple. Claude, comme je l'ai écrit plus tard, Claude ne m'a jamais fait la cour. N'empêche qu'il a refusé tout voyage où je n'étais pas invitée. Tout le monde était toujours obligé de m'inviter à accompagner Claude dans ses voyages. C'était une façon de me dire qu'il ne pouvait pas se passer de moi. Moi, ça me suffisait comme déclaration d'amour. Et puis j'adorais les voyages avec lui, on était très très bien reçus, donc je n'avais aucun souci, je savais qu'il tenait à moi, voilà.
Et qu'est-ce qu'il vous a donné? Vous, on voit ce que vous lui avez donné, mais vous, lui, qu'est-ce qu'il vous a donné? Qu'est-ce qu'il vous a finalement offert
vous savez,
sur un plateau
dans les conversations avec lui, c'était quand même du grand luxe, hein.
Vous m'avez dit un jour, comme dans les restaurants japonais ou chinois, là... la petite fleur qu'on met dans l'eau et qui se déploie comme ça.
Oui.
Et bon, vous avez un enfant en 1957,
oui.
Mathieu, il voulait un enfant ?
Non, il n'en voulait pas, mais il comprenait quand même que s'il voulait me garder, il ne pouvait pas me priver d'avoir un enfant. Donc quand j'étais enceinte, bah, il l'a accepté.
Mais... Et après, quel père était-il ?
Ah, un père formidable.
C'est-à-dire, c'est quoi un père formidable?
C'est-à-dire qu'il s'en occupait beaucoup, il lui parlait beaucoup.
Il s'en occupait beaucoup?
Oui. Et puis, il lui racontait des histoires, et puis il l'emmenait faire des choses avec lui. Non, il a été... Et puis, il avait déjà un fils.
Oui,
donc,
Laurent.
Moi, je m'occupais très bien.
Laurent, oui.
Oui, donc, si vous voulez... C'était tout à fait normal qu'il accepte très bien notre fils.
Et la vie de famille a un peu aussi s'est transformée, puisque vous avez à un moment donné acheté une maison de campagne,
oui.
Où vous alliez quand même plusieurs mois dans l'année,
oui.
En Bourgogne, oui. Enfin. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, parce que c'est vrai que la vie, là, c'est une autre vie qu'à Paris, la vie à la campagne,
oui.
Qui semble avoir aussi bien convenu à tout le monde, j'ai l'impression.
Il y avait un grand silence, et il aimait beaucoup son bureau à Lignerolles. Il avait... pris l'ancienne salle à manger pour en faire son bureau, c'est-à-dire c'était une grande pièce, et il aimait beaucoup travailler là, dans le silence, et puis l'après-midi, nous nous promenions en forêt. Et je dois dire que toutes les découvertes en forêt lui faisaient le plus grand plaisir.
Les champignons ?
Les champignons et aussi les pierres. Parce que pour creuser une route... Quand on traverse une forêt, eh bien, on est obligé de creuser à flanc de colline. Et donc, on voit les stratifications de la terre. Et ça...
La géologie, quoi.
Oui, c'est ça, les strates géologiques.
C'est ça.
Et ça, il aimait énormément analyser les strates. Donc, les promenades étaient toujours fort intéressantes. On faisait de tout, aussi la botanique, parce qu'on trouvait des plantes qu'on n'arrivait pas à identifier, qu'on ramenait à la maison. Et là, il avait tous les livres qu'il fallait pour identifier les plantes. On n'a jamais pas identifié une plante. Parfois, on mettait très longtemps, mais oui. On y arrivait.
Tout ça, vous faisiez ça ensemble. À un moment donné, vous devenez apicultrice.
Oui.
Et ça aussi, ça a beaucoup intéressé Claude. Est-ce que vous pouvez
dire
un peu ?
Figurez-vous que quand nous arrivions à la campagne au mois de mai, par exemple, après les vacances de Pâques, on retournait à la campagne. Et très souvent, à ce moment, quand les tilleuls étaient en fleurs, et à ce moment-là, quand j'arrivais dans ma chambre, il y avait souvent un essaim. Et j'étais donc obligée de tuer cet essaim, parce qu'on ne peut pas dormir dans une pièce avec 60 000 abeilles. Et pour tuer un essaim, il fallait faire brûler des plaques de soufre. Et j'ai fait ça, je crois, deux fois, complètement annihilé un essaim. Et je me souviens qu'à la fin de la deuxième fois, j'ai dit à Claude, il y a une chose que je n'aime pas dans la vie, c'est faire ce qui est contre mes principes. Je n'ai jamais agi contre mes principes, je suis une personne cohérente, et tuer des abeilles, pour moi, ça équivaut à un crime. Et donc, ça fait deux fois que j'annule des essaims, je ne le ferai plus, il faut qu'on trouve une autre solution. Et Claude m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah ben, j'ai dit à Claude, je vais devenir apicultrice. Ça le faisait rire énormément, parce qu'il disait, elle est complètement folle, on ne devient pas apicultrice comme ça. Mais ensuite, je lui ai dit, mais je me suis déjà renseignée au jardin, oui, c'était au Luxembourg, il y avait des cours d'apiculture. D'ailleurs, je me suis inscrite au mois de juin, ça dure 6 semaines, je vais suivre ces cours. Claude n'en revenait pas. Donc j'ai suivi les cours, mais il n'y croyait pas du tout. Il ne me croyait quand même pas capable de faire de l'apiculture. Et ensuite, l'été suivant, j'ai été voir mon voisin apiculteur et je lui ai demandé s'il m'acceptait comme stagiaire. Oh ben il m'a dit oui, j'irai deux fois plus vite. Et sa femme était très mécontente, parce qu'elle se disait, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, cette bonne femme? Pourquoi est-ce qu'elle vient travailler avec mon mari? Ça va pas. Les femmes ne s'occupent pas des abeilles. Elle m'a dit, vous savez, les femmes ne font pas d'apiculture. Je lui ai dit, excusez-moi de vous dire cette chose, mais dans les pays du Nord, les femmes sont apicultrices comme les hommes. En France, peut-être pas, mais c'est tout à fait un métier pour femmes. Et puis le mari disait, mais moi ça m'aidera beaucoup. Si vous vous tenez l'enfumoir, je pourrais travailler sans tout le temps m'arrêter, ça ira très bien. Donc, on a décidé que je serai sa stagiaire.
Vous êtes donc devenue apicultrice, vous avez de la suite dans les idées, vous l'avez fait.
Ah bah voilà, pas seulement pour apicultrice, et... ouais. Pour vivre avec Claude aussi, j'ai de la suite dans les idées. 60 ans avec Lévi-Strauss, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui ont fait ça.
Et alors comment, c'est quoi votre recette pour passer du cru de deux personnes qui vivent l'une à côté de l'autre au cuit du couple?
Mais c'est d'avoir de la suite dans les idées. C'est ça le secret. Quand on veut quelque chose, il faut savoir le prix que ça coûte. Il faut tout mesurer à l'avance. Et si on veut le faire, eh ben on paye. C'est tout.
Merci Monique. C'était À Voix Nue. Monique Lévi-Strauss. Réalisation Jean-Philippe Navarre. Chargé de programme Daphné Abgral. Une série proposée par Emmanuel Loyer. Disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.